L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
C'est parti pour une nouvelle saison de l'Ours et la Carotte. Pour cette nouvelle saison, j'ai prévu plein de rencontres qui, je l'espère, vous plairont. La visite de plusieurs écolieux où l'on essaie de vivre autrement, des rencontres avec plusieurs scientifiques qui nous alerteront et esquisseront quelques solutions aussi. Je vais essayer aussi de vous motiver pour vous présenter au municipal avec quelques belles réalisations de villes et de villages qui vont dans le bon sens. Des élus engagés, des scientifiques, des associatifs, mais aussi des gens comme vous et moi qui font des choses pour changer le monde à leur échelle. J'ai aussi prévu de vous montrer quelques fausses bonnes idées pour l'avenir avec des collectifs qui se battent contre des projets faussement écologiques ou carrément anachroniques. Vous en salivez d'avance, j'espère. En tout cas, moi, je suis impatient de commencer cette nouvelle saison avec vous et avec toutes les personnes inspirantes que nous allons rencontrer ensemble. Nous allons commencer aujourd'hui avec la nouvelle ex-porte-parole de la Confédération Paysanne pour parler de son parcours et, actualité oblige, de la loi du plomb, cette proposition de loi qui est passée cet été, mais avec une pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures contre elle. Laurence Marandola, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes éleveuse de lama et productrice de pommes dans les Pyrénées ariégeoises. Vous avez donc été élue porte-parole nationale de la Confédération Paysanne de mai 2023 à mai 2025. Donc on va partir sur cet événement de l'été, quand même cette loi du plomb qui a un fort impact sur l'agriculture et sur l'avenir que le gouvernement veut donner à l'agriculture. Donc elle est passée, ça a créé une polémique à plusieurs titres, on va en parler. La loi ne contient plus la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Mais le sénateur qui a porté le texte n'a pas exclu d'ailleurs une nouvelle proposition de loi tenant compte des critères imposés par l'institution. Quel a été le regard de la Confédération Paysanne sur cette loi? Elle était attendue, Quel a été le regard? Comment vous l'avez pris quand toi tu as été, on va se tutoyer, oui. Quand toi tu étais donc en poste, la seule femme, la première fois qu'une femme seule se retrouve à la tête de la Confédération Paysanne, qu'est-ce qui s'est passé à la conf?
Il y a deux choses, on l'a très mal pris. Mais en même temps, ce n'était pas du tout une surprise. C'était très attendu. Ce sénateur Duplomb, sénateur Antoine, il faut savoir qu'il est agriculteur lui-même sur une très grosse ferme, ce que nous on appelle de l'agriculture industrielle. Il est encarté à la FNSEA, le syndicat qui n'est plus majoritaire aujourd'hui, mais historique de l'agriculture industrielle et de sa promotion. Et du coup, c'est juste l'ambassadeur de ce modèle agricole-là, Duplomb, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas eu de surprise. N'empêche que ça fait mal. Ça fait mal à plusieurs titres. Le contenu lui-même qu'il a posé sur la table, qui a été dicté à la fois par le gouvernement et ce type de, et les représentants de cette agriculture industrielle, ça fait mal parce que c'est des reculs en arrière terribles d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de la santé des agriculteurs, je vais en parler longuement sur les pesticides, la santé des riverains, la santé des consommateurs. Et ça a fait très très mal ces derniers mois aussi en termes de démocratie. Cette loi, elle a bafoué tous les grands principes. Globalement, il n'y a pas eu de débat dans l'hémicycle, le débat n'a pas eu lieu là où il aurait dû avoir lieu, correctement, avec des votes éclairés, si je puis dire, de l'ensemble du Sénat et de l'Assemblée. Et par chance, il y a eu un éclairage soudain quand cette loi a été promulguée, avec ce refus d'en parler, enfin cette pétition de 2 millions, c'est quelque chose de jamais vu en France. Ça montre quand même qu'il y a des gens qui se sentent concernés par l'agriculture, concernés par la santé, concernés par l'environnement. L'autre point pour nous, à la Confédération Paysanne, qui nous atterrait, c'est qu'aujourd'hui, la situation de précarité de beaucoup des agriculteurs, de vulnérabilité face aux aléas climatiques, enfin on se prend tous les 4 matins en France... ou de la grêle, ou une tornade, ou une inondation, ou du gel sur la vigne, ou les fruits au printemps. Enfin, ça ne cesse jamais. Et on sait tous pourquoi il y a cette succession d'aléas climatiques liés au dérèglement climatique. Ça, c'est la préoccupation première des agriculteurs. L'autre, c'est qu'on a un mal de chien à vivre de notre travail, d'être rémunéré et d'avoir des prix. C'est ça qu'on attend pour aider l'agriculture. C'est pas cette loi du plomb avec plusieurs articles, mais trois emblématiques, celui sur la question des pesticides, celui sur la question des mégabassines et celui sur l'élevage industriel. Mais pour le dire en résumé, la proposition de loi du plomb, elle ne répondait pas aux difficultés, aux attentes et aux besoins de l'immense majorité des agriculteurs dans ce pays. C'est un vrai scandale.
À la transition utile et même à la demande des consommateurs. On va parler par celle qui touche justement tout le monde, celle qui, de cette fameuse acétamipride, c'est ça, un truc comme ça ?
Acétamipride.
Cette histoire, donc là, c'est vraiment une question de santé. Alors, il y a la question de l'agriculture, puisque c'était censé aider les betteraviers, donc toute la filière sucre française. Quel est votre regard là-dessus ? Parle-nous-en.
La première chose, c'est que c'est quand même un produit qui a été interdit en France en 2018. Ça fait 7 ans maintenant. Et vous imaginez bien tous qu'un produit n'est pas interdit comme ça en un claquement de doigts. C'est qu'il y a eu forcément des arguments et des informations scientifiques fortes pour décider le gouvernement de l'époque d'interdire ce produit qui était utilisé beaucoup par les betteraviers, un petit peu pour la noisette. On a beaucoup mis la noisette en espèce paravent, je pourrais le dire comme ça, parce que c'est chouette la noisette, non ? Mais la betterave, ça fait moins rêver. Mais en fait, c'est globalement les betteraviers qui sont les plus gros consommateurs de ce produit. C'est effectivement un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, qui sont réputés tueurs d'abeilles. Alors, tueurs d'abeilles et de l'ensemble des insectes, hein, soyons clairs. Donc, c'est vraiment un drame au regard de la biodiversité. Enfin, on sait tous que les populations d'insectes se sont effondrées. Et en cascade, les populations d'oiseaux, enfin, tout ça, on le sait par cœur. Et voilà, ce genre de pesticide est vraiment hautement responsable de ces effets-là. Et l'autre sujet, c'est que c'est un produit toxique pour la santé humaine, avec plusieurs études qui le classent dans les cancérigènes probables. Alors, c'est les adjectifs qui sont importants là-dedans. Et c'est la conjugaison de ces atteintes à la biodiversité, à la santé des populations, la santé des agriculteurs qui utilisent ces produits. C'est d'abord, moi je veux le redire, c'est d'abord les paysans les premières victimes des pesticides. À leur insu, clairement, on ne connaît pas, moi la première, toi je pense, et aucun paysan n'a été épargné dans sa famille, dans ses proches, dans ses collègues, dans ses voisins, par des maladies graves ou mortelles liées à l'utilisation des pesticides. C'est aussi la santé des riverains, et c'est évidemment la santé des consommateurs qui est en jeu. Donc, mis bout à bout, les questions de biodiversité et de santé, ça fait que la France avait jugé nécessaire de l'interdire en 2018, et forcément sur des bases solides. Et ça a été hautement contesté depuis longtemps, parce que c'est vrai que des formes de néonicotinoïdes sont toujours autorisées dans d'autres pays européens, et c'est ça que ça hurle à tort et à travers, que si d'autres l'utilisent, c'est une concurrence déloyale. Il y a une façon extrêmement simple de résoudre ça, c'est d'interdire l'entrée de ces produits traités avec ces pesticides sur le sol français ou sur le sol européen. Et l'autre question, c'est que c'est absolument scandaleux quand on entend les betteraviers dire qu'ils en ont absolument besoin. Évidemment, on en a besoin quand on fait betterave sur betterave sur betterave sur betterave. Je pense que tout le monde, tout auditeur peut comprendre la logique en agriculture, c'est un peu d'alterner les cultures, de laisser des espaces de biodiversité. Et ce n'est pas ce qu'ils font en betterave. C'est betterave sur betterave.
Si on revient... et en plus, il peut y avoir des luttes biologiques, c'est-à-dire en laissant de la biodiversité autour, en ne faisant pas du plein champ, en remettant des haies, on va avoir des ennemis naturels de ces... parce que c'est pour combattre un insecte hein, qui attaque la betterave.
Une punaise, ouais, une punaise qui provoque une maladie sur la betterave. Il y a plein de méthodes de lutte. Ce que je dois dire... c'est que ça, ou par exemple le Roundup, là, le glyphosate, c'est des molécules qui fonctionnent parfaitement. Et du coup, si on veut obtenir cette efficacité, on ne va pas l'avoir. On va avoir des méthodes qui permettent de réduire, circonscrire le risque, limiter le risque de ces maladies sur les betteraves, sur la noisette ou sur d'autres fruits. Mais on n'arrivera pas à 100% d'efficacité. Mais en vrai, 100% d'efficacité dans la nature, ça n'existe pas. Il faut accepter ce risque et il faut accepter de laisser la nature jouer, c'est-à-dire en laissant reposer les sols, en changeant de culture d'année en année et en laissant des espaces de biodiversité pour accueillir les prédateurs de ces insectes. Exactement.
Alors, il y avait un autre sujet dans cette loi du plomb, les mégabassines. Donc sujet, faut-il, alors beaucoup de gens vont vous dire, en scénario de réchauffement climatique, il est important de stocker de l'eau quand elle passe, puisqu'on va avoir des épisodes de plus en plus violents, de moins en moins de neige dans les montagnes qui alimentent les rivières en hiver. C'est quoi votre regard sur cette irrigation qui est indispensable pour beaucoup pour l'agriculture et qui va l'être de plus en plus, puisqu'on va avoir des, on l'a vu cet été, un épisode de sécheresse terrible si les agriculteurs n'avaient pas pu irriguer un petit peu, les cultures seraient simplement mortes.
Clairement, il n'y a pas d'agriculture sans eau, ça c'est sûr. Et par contre, à la Confédération paysanne, on n'est absolument pas dans le déni de ce qu'est le dérèglement climatique, de ce qui le provoque ou qui l'aggrave et de ce qui pourrait l'amoindrir. Les mégabassines, vous parlez de fausse solution. C'est carrément une fausse solution, la mégabassine. Parce qu'elle, on parle des mégabassines qui existent aujourd'hui, ou le projet qui existe en Nouvelle-Aquitaine, hein, en particulier dans les Deux-Sèvres, autour de Sainte-Soline. Et tout ça, c'est vraiment, c'est pas une solution. C'est pomper de l'eau dans une nappe qui est extrêmement fragile, dans un marais qui a déjà été asséché et qui continue aujourd'hui encore à s'assécher, alors que normalement on devrait protéger les zones humides. Le meilleur endroit pour stocker l'eau, c'est le sol. C'est pas des mégabassines pleines de plastique.
Donc, avec une évaporation évidemment énorme au soleil.
Non, mais c'est une fausse solution à tout point de vue, d'abîmer, de prélever dans la nappe, même quand elle est pleine. Une nappe, elle a besoin d'être pleine. Elle a besoin de déborder, elle a besoin d'avoir des zones humides, elle a besoin d'avoir des marais, ce genre de choses. Voilà, elle a besoin d'aller vers la mer. C'est ça, le cycle de l'eau, et on ne peut pas se croire plus fort que ça. C'est complètement une illusion totale. Extrêmement dangereuse pour le cycle de l'eau. Du coup, ça ne marche pas techniquement. C'est un accaparement de l'eau. Je vais reparler de Sainte-Soline, c'est une bassine emblématique. Elle, c'est la plus grande de toutes celles en projet. Elle n'est toujours pas remplie. Aujourd'hui, au moment où on se parle, elle va servir à 12 agriculteurs. C'est des centaines de milliers d'euros de dépenses subventionnées à 80% par l'argent public. Ça aussi, il faut se le dire. Et qui sert à 12 agriculteurs. Quand à côté, il y a des maraîchers, j'en connais un très bien, qui n'a pas d'eau pour irriguer des choses essentielles pour notre alimentation, des fruits et des légumes. C'est de ça qu'on parle. Nous, on se dit, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Le cycle de l'eau, le dérèglement climatique fait que c'est compliqué. Donc l'eau, il faut la partager. Et il faut la partager démocratiquement. Ça suffit, cet accaparement, que des volumes se décident dans une salle ou derrière des portes fermées, des volumes colossaux d'eau pour certains agriculteurs, pas pour d'autres, et parfois même au mépris de l'eau potable, en quantité et en qualité. Ça, c'est pas possible. L'eau, il faut la partager. Et l'eau en agriculture, il va falloir prendre des décisions courageuses. Il va falloir la prioriser. Il n'y aura pas d'eau en agriculture pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a moins de 7% de la surface agricole française qui est irriguée. On n'arrivera pas à la doubler. Ce n'est pas possible, quoi qu'on fasse. Du coup, il va falloir prioriser. Sur quoi on met de l'eau en agriculture d'abord? Pour nous, à la Confédération paysanne, c'est d'abord sur de l'alimentation humaine. Fruits et légumes, ça va être pour abreuver des troupeaux. Pas des usines, hein, mais des troupeaux de l'élevage paysan. Et pour faire un peu de semences, pour continuer à produire demain. C'est ça le sujet. On ne peut pas continuer à exporter, à irriguer massivement des cultures destinées à l'exportation, que ce soit du maïs ou des céréales. On peut pas, c'est du luxe qu'on ne peut pas se permettre, sauf, ça sert à quoi? À enrichir finalement les marchés intensiers, les marchés du commerce international des céréales. Ça ne sert pas aux populations locales, ça ne sert pas à grand monde.
On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter?
Moi, j'aurais très envie d'écouter, mais je ne sais pas si on peut. Petite Ferme, un rap paysan.
D'accord. C'est qui fait ça?
C'est une équipe de Savoie-Haute-Savoie sur l'idée de Petit Frère d'Ayam.
En avant, on va écouter ça, je vais découvrir.
Ouais.
Qu'elle soit restée petite, c'est pourquoi elle s'obstine à rester sauvage. Sans trop de technique, devenir grande avec les phytos comme mentor, c'est éclater la vie, même celle de ceux qui ne font pas de tort. À l'époque où grande ferme était gamine, on sortait de la guerre, fallait sortir de la famine. Maintenant la misère est entrée dans nos terres. Étape éclate les vers de terre dans Mortal Désert. Évidemment, il faut quand même de l'argent, faut faire ses preuves chez les grands. Alors on trouve des clients dans des assos. Plus question de rester solo, plus de journées d'enfer. Petite ferme des trêves, je ne crois pas que c'était volontaire. Les anciens, c'est certain, indirectement ont montré qu'en chier c'est bien. Demain, petite ferme et de fermeture pour préparer les fêtes avec sa progéniture. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses. Et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme. Thank you.
petite ferme tient désormais debout bien aux quatre vents. Sa réputation n'est maintenant plus à faire, tu comprends. Mais tu vois, ça n'est pas assez. Montrer que c'est possible, ça n'apporte pas de respect. Elle sait trop de quoi demain sera fait si elle reste seule dans son coin sans se mobiliser. Demain crèveront les paysans de la planète. Elle ne peut ignorer ceux qui croulent sous les dettes. Et son combat la mène un peu partout en France. Elle capte la colère, elle capte la souffrance. Petite ferme a choisi de se battre contre les méga bassines et le béton qui ne cesse de croître. Petite ferme. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses. Et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.
Alors, nous sommes de retour avec Laurence Marandola, donc, qui vient de finir son mandat de porte-parole de la nationale de la Confédération paysanne. Donc on a vu dans cette première partie d'émission cette loi du plomb sur deux sujets qui sont donc ce néonicotinoïde, si j'y arrive un jour, et également sur les mégabassines. Il y a un autre sujet quand même, c'était sur l'élevage, c'était cette capacité à agrandir plus facilement des fermes industrielles. Ça veut dire qu'à l'avenir, les fermes aux 1000 vaches pourront fleurir facilement.
Plus facilement en tout cas, effectivement ça relève le seuil en nombre d'animaux, en nombre de milliers, hein, dizaines ou centaines de milliers de têtes d'animaux qu'on peut détenir sur un endroit et de faciliter les autorisations pour ça. Ces fermes-usines, c'est même plus une ferme en fait, c'est la production industrielle d'élevage, c'est important qu'elles soient regardées de près, qu'il y ait des autorisations et des plafonnements. Parce que sur une petite zone concentrée, autant d'animaux, évidemment ils sont enfermés, hein, c'est clair. Ils ne sortiront pas, donc en tête, ce n'est pas du tout l'élevage qui nous intéresse à la Confédération paysanne en termes de qualité, de bien-être animal. Et surtout, ça pose d'énormes soucis logistiques. Il va bien falloir les nourrir. Ça veut dire un balai à 500 de tracteurs, de trains, de je ne sais pas quoi, qui va apporter de l'aliment. Ça veut dire des déjections animales énormes à devoir épandre on ne sait où. C'est quand même l'élevage industriel, je veux le rappeler là, qui a provoqué les phénomènes des algues vertes en Bretagne. C'est, voilà, il n'y a juste pas tortiller, c'est vraiment ces pratiques d'une concentration d'un trop grand nombre d'animaux à un endroit qui provoquent ça, ou des problèmes de nitrate dans l'eau, et on se retrouve avec des pans entiers de territoire français où l'eau n'est plus potable, le robinet, pas qu'à cause de l'élevage ou des engrais, mais quand même beaucoup. Du coup, c'est pas concevable pour nous. Et se dire qu'on peut relever le seuil, faciliter encore l'agrandissement, c'est à revers de l'histoire, complètement à revers de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des attentes sociétales en termes de qualité de la viande, des œufs. On vient là, dans l'actu criante d'hier, on vient de découvrir qu'il y a des œufs vendus en France non conformes aux normes UE qui viennent d'Ukraine. Bon, qui viennent d'ailleurs, ça serait pareil. C'est pas l'Ukraine le problème. Voilà, on est en train de se dire qu'on serait capable de réautoriser en France d'avoir des produits hyper industriels. Enfin, pour nous, c'est inconcevable. L'élevage paysan, c'est un lien fort et équilibré entre des hommes, des éleveurs, des bergers, des troupeaux, quels qu'ils soient, de vaches, de brebis, de porcs, de volailles, et un territoire qui peut le supporter. C'est ça la clé de voûte de ce qu'est l'élevage paysan, qui devrait être, et je crois que là, du coup, il n'y aura aucun problème avec les riverains, ou à peu près pas, et c'est ce qu'on attend, et c'est ce dont on a besoin. Et c'est d'autant plus difficile d'entendre cette industrialisation encore de l'élevage, qu'on a vécu des crises sanitaires majeures. Je vais remonter un peu loin dans l'histoire, les plus jeunes ne connaîtront pas le veau aux hormones. C'est l'histoire un peu, c'est le moment de la création de la Confédération paysanne.
Oui, c'est ça, c'est quand en fait ça crée à la fois en général des problèmes de santé, de mauvaise qualité, ça crée des épizooties parce que sont des animaux qui sont fragiles, voilà. Fragilisés par leurs conditions de détention, ouais. On va dire. Ouais. Donc en fait ça coche pas tout. En général, c'est fait pour l'export, c'est-à-dire que ils vont en vendre un petit peu à côté, mais c'est tout part à Rungis et revient après dans le... On est loin du circuit court, quoi.
Alors on est très loin, mais ça, il doit y avoir du circuit long aussi. Mais avoir du circuit long, ça ne veut pas dire avoir des produits de merde. On peut exiger avoir des produits de qualité, faire du porc, de la volaille pour les cantines, mais de qualité et pas dans ces questions-là. Donc je parlais du veau aux hormones, mais effectivement les épizooties, les maladies animales dramatiques, on en a vécu, la grippe aviaire, ça a été un cauchemar, et c'est provoqué par la densité d'élevage au mètre carré et les circulations incessantes, tracteurs qui amènent des cannes tondées, qui ramènent des canards pour gaver, qui transportent du maïs et que si et que ça, on s'en sort pas en fait. Et c'est vraiment acté et ça provoque en fait, puisque les questions sanitaires sont de plus en plus dures et tendues. On a vécu l'an dernier ici, en première loge, moi sur ma ferme, mais toute l'Ariège et d'autres départements, la fièvre catarrhale à l'ovine. On a vécu cet été, et on est encore dedans, la dermatose nodulaire contagieuse en Savoie-Haute-Savoie, où l'État a comme seule solution pour protéger l'export de dire on abat tout, des animaux sains qui sont en estive et tout. Enfin, du coup, l'élevage industriel, il est extrêmement pernicieux sur des questions de santé, d'environnement, de mauvaise qualité, mais aussi c'est lui qui dicte ses lois. Qui dicte ces lois en termes de gestion sanitaire. Et du coup, toutes les lois sont faites pour protéger l'élevage industriel et l'export. Et ce n'est pas du tout ce que nous, on estime. Ce n'est pas notre choix, en fait. Ce n'est pas ce qu'on veut.
Oui, d'autant que vous êtes en fait un syndicat qui est altermondialiste, qui s'est battu depuis longtemps contre la mondialisation, contre ce genre de traité transatlantique qui fait que, et justement les paysans eux-mêmes, même les industriels, disent qu'il y a une concurrence déloyale et avoir arrivé de la viande des États-Unis où on sait qu'il y a... Qu'il y a des traitements qui ici ne sont pas autorisés, des viandes de mauvaise qualité, du coup, pas bonnes pour la santé humaine. On va parler un petit peu de cette mondialisation. On est pris au piège quelque part aussi, c'est-à-dire c'est un piège de plus qui se referme sur l'agriculture en France, selon vous ?
Oui, enfin, c'est pas une fatalité. C'est vraiment des choix économiques, de politique économique, en fait, qui mettent en danger des pans entiers de notre agriculture, mais qui mettent aussi en danger des pans entiers de l'agriculture des pays concernés. Je vais parler du Mercosur, parce qu'on est en plein dedans, parce qu'il se rumeure que malgré que tout le monde a crié, le président Macron le premier, non, on n'en veut pas en l'état, qui sera peut-être signé d'ici la fin de l'année. Et il se trouve que je connais très très bien l'Amérique du Sud et ces pays-là, et du coup ça va...
Alors on va le dire, hein, tu es éleveuse de lama et tu as, je crois, même... Tu as découvert ça en Bolivie, je crois.
Ouais, j'ai vécu une quinzaine d'années en Bolivie, donc je connais très très bien l'Amérique du Sud. Et on a fait même une déclaration commune, les paysans européens. Donc on a un grand réseau international qui s'appelle la Via Campesina, le réseau européen et le réseau latino-américain. On a signé une déclaration commune il y a 2 ans même quasiment maintenant. J'étais en Colombie. C'était une grande première où les paysans de tous ces pays, on a dit on n'en veut pas. Parce qu'en fait, ça nous étrangle. Ça fait venir sur notre sol des produits moins chers avec d'autres standards de production, en fait. Et surtout, ça nous fait descendre nos prix sur place aussi. Du coup, on n'arrive plus à s'en sortir. Et il y a des phénomènes d'accaparement des terres. Ça existe en France. Mais à une autre échelle, on imagine bien, on le sait bien, je pense au Brésil ou en Argentine. Donc les paysans vont complètement disparaître. Ça va juste être des firmes d'agro-industrie dédiées à l'exportation. Au mépris de l'alimentation des populations locales, au mépris des paysans. C'est mauvais dans les deux sens. Nous, on est favorable à un commerce, à du commerce international s'il le faut, sur des bases justes, sur des bases de commerce équitable, avec un prix rémunérateur, avec des conditions de production sur lesquelles on se met d'accord. On utilise ou on n'utilise pas tel ou tel produit ou pesticide. Et ça, on est en mesure de le faire. Le commerce équitable, ça existe. En version nord-sud, ça existe en France. Les circuits courts, les AMAP, ça permet parfois d'y répondre. Et si on est envahi de viande brésilienne, c'est la fin de plein d'élevages. Et ça va être la fin en premier des élevages les plus vertueux, ceux qu'on voit autour de moi là. Les animaux qui sont dehors en estive, qui sont nourris à l'herbe, c'est ceux-là qui vont disparaître d'abord.
Pourquoi ? Parce que le consommateur ira vers le moins cher ?
Probablement, oui. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, cette situation... des accords de libre-échange, elle est directement liée au fait que, et depuis longtemps, depuis la fin de la Seconde Guerre, je dirais, depuis la première PAC, politique agricole commune, de se dire qu'il faut fournir aux citoyens une alimentation la moins chère possible. Mais c'est juste pas possible. L'alimentation, elle a un prix. Notre travail, il a un prix. Et du coup, il y a des...
Et la santé humaine a un prix.
Carrément. Je vais y venir. Et en plus, les citoyens sont aujourd'hui... les travailleurs, les retraités, les jeunes, dans des situations économiques difficiles. Ça, on l'entend parfaitement, nous, comme paysans. On le sait, on la vit. On sait combien de gens dépendent de l'aide alimentaire dans notre pays. C'est dramatique. Et une alimentation de mauvaise qualité, ça a un prix. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est extrêmement intéressante, sans parler des problèmes d'eau potable, qui n'est plus potable, même sans parler de ça, on estime que les conséquences d'une alimentation de mauvaise qualité, c'est 19 milliards par an en France. Les problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation. Et voilà, juste par comparaison, l'argent public qui est injecté en agriculture en France, via la politique agricole commune, c'est moins de 10 milliards. Donc on met 10 milliards, et puis d'autres choses aussi, mais en retour, il y a des soucis de santé qui font que ça coûte aux Français et à la société française 19 milliards. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va dire stop.
Et 10 milliards qui sont en général dirigés, captés en grande majorité par l'agro-industrie elle-même.
Exactement, oui, oui, carrément.
On alimente le problème. Ouais. On va arriver au terme de cette émission. Il y a un point que tu as envie de partager avec plus général sur avec les auditeurs.
Il y a un point qu'on n'a pas abordé, je l'ai un peu évoqué, c'est que beaucoup d'agriculteurs sont aujourd'hui dans des situations difficiles. Je le parlais de vulnérabilité face aux aléas climatiques, de vouloir changer de système, mais c'est difficile, et de problèmes de rémunération. Il y en a quelques autres qui vont très bien. Voilà, et que tout le monde ait bien en tête que le monde paysan en France, c'est pas un truc, c'est extrêmement diversifié, et qu'il y a un modèle agricole, celui de l'agro-industrie, celui soutenu par des lois comme la loi du plomb, celui soutenu par la PAC, qui détruit l'autre. Et c'est aussi un peu une sonnette d'alarme que l'agriculture, je pense qu'on aime en France, celle de l'agriculture paysanne, elle est clairement en danger, clairement en danger. Pourtant, il y a des vocations, des jeunes qui ont envie de ce métier, qui ont envie de travailler avec le vivant, qui ont envie d'être dehors, qui ont envie de produire de qualité, il y en a. Mais après, ça se cogne dans le mur de la réalité et le mur des difficultés à s'installer aussi. Aujourd'hui, les fermes, elles grandissent comme partout dans le monde, de plus en plus, même en France, et c'est vraiment de plus en plus dur. Et je pense qu'il faut vraiment un sursaut de l'ensemble des citoyens pour se dire, et on l'a vu à la loi du plomb, donc c'est un peu encourageant, il faut qu'on garde des agriculteurs nombreux, qui puissent vivre de leur travail. C'est l'histoire de tous, hein. C'est notre alimentation, c'est notre santé, c'est nos paysages, c'est notre territoire.
C'est des choix de budget dans les familles aussi. Qu'est-ce qu'on priorise ? Est-ce qu'on priorise sa santé sur le long terme ? Est-ce qu'on priorise un environnement sain autour de soi et au niveau national ? Ou est-ce que, pour ceux qui le peuvent, hein,
oui, oui. Alors,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui le peuvent, on voit de très très jolies voitures devant les magasins discount. Hein, c'est pas, il y a pas que des voitures pourries et des gens à vélo.
Il y a forcément des choix individuels, mais il y a beaucoup, nous à la Confédération Paysanne, on pense surtout que c'est les politiques qu'il faut complètement changer d'angle. Les politiques de santé, les politiques de soutien à l'agriculture, les politiques pour l'accès au foncier, les politiques sur les pesticides, les politiques économiques, on en parlait, arrêter de se jeter dans les bras d'accords de libre-échange qui n'ont jamais servi ni aux salariés ni aux paysans. En fait, ça n'existe pas. Voilà, plus que les responsabilités individuelles, c'est vraiment les choix politiques qui sont faits au mépris des citoyens et des agriculteurs.
Bon, on n'en a pas parlé, mais toi-même, tu es agricultrice. Hein, le mot de la fin.
J'ai oublié un truc.
Ah,
ouais, ouais.
Vas-y.
Ouais, ouais. Moi, je suis paysanne en haute montagne en Ariège. Juste sous les estives, ouais, en très haute montagne, sur une ferme non mécanisable. Et du coup, il y a 3 ateliers sur ma ferme. J'élève des lamas pour du débroussaillage, pour la laine, pour du portage. Je fais un peu de jus de pomme, mais les fruits, c'est très compliqué pour des problèmes climatiques. Et j'ai un atelier autour des plantes aromatiques et médicinales, du coup, en cueillette de plantes sauvages, en culture et en transfo, tout en bio. Voilà. Et avoir 3 ateliers sur une ferme, c'est bien. C'est comme pas mettre ses œufs dans le même panier, parce que des coups durs, on en a eu, comme tous les agriculteurs, qu'ils soient climatiques ou sanitaires. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, après 4 ans d'investissement massif loin de ma ferme, voilà, très heureuse d'être ici, d'être toujours active à la Confédération Paysanne. Et voilà.
Ça a été dur d'être une femme dans ce monde-là ?
Honnêtement, pas tant. La Confédération Paysanne, ça s'est très très bien passé, alors que c'était une première fois. Et puis on est porte-parole à la Confédération Paysanne, donc il y a beaucoup de collectifs. Je suis pas la patronne, en fait, je porte la parole de ce collectif, et ça s'est vraiment très bien passé. Et à peu près partout, je pense que c'est une question de caractère et puis d'expérience, mais j'ai quand même vécu des moments surréalistes, des moments où l'ensemble de la profession agricole était réunie, par exemple à l'Élysée ou ailleurs, une quarantaine de personnes, toujours les mêmes, et on est entre 2 et 4 femmes. Ça, c'est pas normal. Il y a 30% des chefs d'exploitation, c'est comme ça qu'on dit en France, qui sont des femmes, et quand on se retrouve à 4 à une table d'une cinquantaine de personnes, il y a un truc qui va pas. Et du coup, je suis contente d'avoir participé à ce combat-là de la place que doivent, du droit des femmes à prendre leur place en agriculture aussi.
Le vent se lève sur l'Ariège, on va pouvoir arrêter l'émission. Merci beaucoup Laurence Marandola. Un conseil de lecture, un conseil de visite de site pour les auditeurs qui veulent se sensibiliser ou aller voir le site de la Confédération Paysanne.
Oui, ou...
c'est
ouais.
ça
ouais. Un conseil de lecture, vous pouvez vous abonner à Campagne Solidaire. C'est un mensuel fait par des paysans pour tout le monde. Ça s'appelle Campagne Solidaire, c'est un mensuel. Et c'est vraiment accessible à tous avec une ouverture sur des témoignages de ferme, sur des dossiers sociétaux et à l'international. Parce que vous le disiez, on est très lié à ces questions internationales. Donc dans tous les numéros, plein de belles choses.
Merci Laurence, au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte, écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.